11h sur La Nouvelle Génération. Vous comprenez sans doute que vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. Je suis très heureux de vous retrouver ce lundi 9 janvier de l'année de grâce 2023. Je suis Pascal Lossou au micro, Michel Vitogbe Tomega assure la mise en onde à l'heure de cette émission Club de la Presse que vous allez suivre avec tout intérêt. Club de la Presse, c'est également alors sur nos différentes plateformes numériques et c'est grâce à Jérôme Dakoucha qui assure bien évidemment la mise en ligne. Club de la Presse, c'est aussi avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anejo, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa et Radio Courtoisie à Dapaon. Club de la Presse, c'est surtout avec des confrères, journalistes et des invités en studio pour décrypter, analyser, commenter, bref, débattre à l'heure de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Sous le coup de midi, vous serez également invité au débat pour vous prononcer sur un sujet de votre choix débattu ici avec mes invités. Et parlons justement alors de mes invités, le premier qui vient alors de s'installer, c'est bien Didier Assogba, un fidèle alors de lundi, bien évidemment dans cette émission Club de la Presse. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Comme c'est ma première fois de venir ici cette année, donc je profite pour dire en même temps une fructueuse et excellente année 2023 à tout un chacun, mes voeux de santé, de prospérité surtout.
D'accord, merci beaucoup, j'espère que vous avez bien passé le week-end.
Oui, ça va, le week-end s'est bien passé, on a travaillé également, mais on a pris également le temps de nous récupérer. Je pense naturellement que le week-end s'est bien passé de toute façon. D'accord. À la Togolaise,
bien sûr. Alors, nous attendons Arimiaou Tsanyaou, voilà, et du journal Nouvelle Opinion. Alors, quand on parle du loup, on voit ça que comme on a l'habitude de le dire. Il s'installe alors déjà. Arimiaou Tsanyaou, bonjour.
Bonjour.
Je ne vous laisse même pas aussi s'installer avant de vous dire bonjour. Et j'espère que vous allez bien.
Je vais bien et je souhaite une heureuse semaine à tous les Togolaises, à tous les Togolais et à toutes les Togolaises qui nous suivent en ce moment.
Voilà.
C'est la première fois que je viens à ce micro en 2023.
Tout à fait.
Et c'est tout heureux que je le retrouve et je voudrais saisir cette opportunité pour souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de longévité à tous les Togolais et dire que la santé et la longue vie se mettent ensemble pour accompagner tous les Togolais. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la santé quand on n'a pas la longue vie. Et quand on a la longue vie sans la santé, ça ne sert également à rien. Donc, que les deux se conjuguent autant pour nous, journalistes, pour tous ceux qui dirigent ce pays et pour l'ensemble des populations de notre chère nation.
Merci beaucoup alors pour ces vœux et j'espère que les uns et les autres ont pris bonne note également de ces vœux que vous venez alors de leur adresser. Alors nous attendrons aussi notre invité alors du jour, c'est Togbi Dagban à Yvon 4, chef quartier d'Adakpa Méapié, mais il va nous rejoindre incessamment. Alors le premier sujet que nous allons débattre alors dans cette émission, c'est celui alors relatif à la libération alors des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako il y a de cela 6 mois. Ils ont regagné la Côte d'Ivoire le samedi dernier en faisant même une escale à Lomé afin de témoigner leur gratitude alors au chef de l'État Faure Gnassingbé pour sa médiation dans cette affaire. Et des journaux alors sont revenus sur le sujet aujourd'hui et des journaux togolais bien évidemment. Il y a Mega Info qui titre à sa une ce matin action de grâce au Mali. Faure Gnassingbé exploite sa discrétion et son humilité pour résoudre les gros problèmes. Le Républicain Info titre aussi à sa une libération des 46 militaires ivoiriens, une diplomatie gagnante du président Faure Gnassingbé. Et Togo Réveil aussi qui titre à sa une médiation réussie de Faure Gnassingbé, les 46 militaires ivoiriens libérés à Abidjan et Bamako saluent la persévérance du médiateur. Alors Didier, quand on suit bien cette actualité, on sait très bien que, alors, il y a de cela 6 mois que ces 46, oh, ils étaient même d'ailleurs 49, après il y a les 3 femmes soldats qui ont été libérées et par après, nous avons eu l'information que déjà ils ont été graciés par le colonel Assimi Goïta, et ça c'est bien avant leur condamnation de 20 ans de prison ferme. Alors aujourd'hui, sous alors la médiation de Fogna Singbe, aujourd'hui ces 46 soldats recouvrent la liberté, et ils ont regagné même d'ailleurs la Côte d'Ivoire le samedi passé. Nous dirons tout simplement que c'est un pari gagné pour Fogna Singbe.
Oui, c'est un pari gagné pour le chef de l'État togolais, la diplomatie togolaise, donc qui a mouillé le maillot, qui n'a fait donc économie d'aucune initiative pour que finalement on arrive à un dénouement heureux de cette affaire-là qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire depuis pratiquement 6 mois déjà. Et on aurait pu trouver des solutions depuis avec la médiation togolaise si naturellement à un moment donné les autorités ivoiriennes n'avaient pas choisi d'autres voies, n'avaient pas choisi d'autres méthodes, d'autres mécanismes pour se passer naturellement du Togo. Je ne sais pas si elles ont quelque chose contre le Togo ou contre les autorités togolaises. Donc ils avaient choisi un temps d'autres voies, mais on a vu que finalement ces voies n'ont pas prospéré et les solutions imaginées en dehors de la médiation togolaise n'avaient pas prospéré. Et Assimi Goïta tenait droit dans ses bottes de militaire et a voulu donc faire cette leçon-là à la Côte d'Ivoire, mais également aux organisations sous-régionales, à la CDAO, à l'UMOA, même l'Union africaine et l'ONU, de ce que le Mali reste un pays souverain et que s'il doit y avoir un règlement de cette affaire, ça ne devrait pas être par les intimidations, mais par les négociations et la diplomatie. Finalement, la Côte d'Ivoire est revenue en de meilleurs sentiments. La CDAO a reconfié ce dossier-là au chef de l'État togolais, qui a repris donc son bâton de médiateur, et on voit qu'au finish, les déplacements du Togo sur le Mali, donc sur Bamako et sur Abidjan, ont fini finalement par donner gain de cause en ce qui concerne l'issue attendue de cette crise, laquelle est la libération donc des 46 prisonniers restants. Et le Mali a vraiment joué le jeu en étant constant jusqu'à la fin, parce que vous avez vu, on a laissé un temps le dossier à la justice, traiter le dossier jusqu'à la fin, jusqu'à la condamnation d'ailleurs de ces 49 finalement, de ces 49 agents ivoiriens. Et ce n'est qu'après la condamnation et le déplacement du chef de l'État togolais sur Bamako qu'est advenu donc la grâce présidentielle signée par Assimi Goïta, qui faisait la remise de peine. Et Bamako tenait à remettre les militaires aux Ivoiriens par le Togo. Et donc, vous avez vu, c'est ce qui justifie d'ailleurs leur passage à Lomé, leur réception par le chef de l'État togolais. Donc oui, le Togo a bien joué le coup, le Togo a bien joué son rôle. Aujourd'hui, le Togo devient encore une plaque tournante de la diplomatie en Afrique de l'Ouest. On a vu que cette diplomatie-là, de négociation, de discussion, de compréhension également, a été payante. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir récupéré ces éléments qui étaient en prison là-bas depuis pratiquement 6 mois.
Arimiaou, qu'est-ce qui a joué concrètement en faveur du Togo dans cette médiation?
Non, bon, je crois que à chaque pays, c'est réalité. La réussite que nous avons connue dans cette médiation fait davantage croire à tout le monde que le Togo est et demeure ce pays de paix qu'on lui a déjà connu depuis des années. Où le Togo, historiquement, intervient là où beaucoup échouent pour pouvoir implanter la paix. Vous savez, quand vous retournez un peu, vous allez voir qu'en 2020, quand Fogna Singbe battait campagne pour sa réélection, il avait mis comme socle la paix, la cohésion, la concorde. Bien entendu qu'il parle également du développement, mais ce qui lui tenait beaucoup à cœur, c'est d'implanter cette paix, hein, de la pérenniser au Togo, puis dans la sous-région. Et donc, quelqu'un qui bat campagne et qui prend pour socle la cohésion, la paix et la concorde entre ses filles et fils de son pays, et qui veut que cette paix rayonne partout dans la sous-région d'où il fait partie, ça veut dire qu'il a des prédispositions à travailler, à ramener l'entente et la symbiose entre deux peuples qui ne s'entendaient pas à un moment donné. Vous avez constaté que au départ, quand il y avait eu cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'était également Fornia Singbe qui avait commencé par travailler autour de la question. Et finalement, on a pu libérer trois des 49, et c'était des femmes, sous fort toujours. Et maintenant, entre-temps, les gens ne se sont pas entendus, mais à la dernière rencontre d'Abuja, pour le compte de la CDAO, les pères, président, avaient reconforté Fornia Singbe dans sa position et lui ont demandé de continuer par travailler, de faire la médiation pour que l'entente redevienne à la normale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et c'est ce que Fornia Singbe a fait. Dès son retour d'Abuja, il ne s'est pas donné du répit. Tantôt, on le voyait à Abidjan, tantôt à Bamako. Et finalement, la dernière fois qu'il a été à Bamako, puis à Abidjan, au lendemain, en même temps, nous avons vu que les gens ont entendu raison et finalement Guita est revenu sur sa position et a accordé la grâce aux 46 qui restaient alors qu'ils étaient déjà condamnés pour 20 ans de prison ferme. Donc cette diplomatie qui est saluée d'un peu partout n'est pas, à mon avis, la victoire de Fornia Singbe à lui seul, mais c'est pour tout le Togo. Et donc le Togo, effectivement, est en train de se frayer ou de s'imposer dans le landerneau diplomatique, que ce soit en Afrique ou dans le monde, parce que il y a eu beaucoup plus forts, plus puissants que le Togo qui se sont intéressés à cette affaire et malheureusement, ils n'ont pas pu trouver la solution idoine que Ivoiriens et Maliens attendaient. Mais aujourd'hui, c'est à saluer, c'est à mettre en notre actif et c'est une fierté pour nous, Togolais, de dire que c'est par nous que tout cela a été possible et l'ingratitude n'a pas été de mise, ni chez les Ivoiriens, ni chez les Maliens. Les Maliens ont pendu un communiqué pour saluer tout ce que le président Fornia Singbe a pu faire pour que l'entente revienne entre eux et les Ivoiriens. Même chose chez les Ivoiriens. Et maintenant, les prisonniers libérés également ont tenu à faire allégeance et à prouver leur reconnaissance au Togo, d'où l'escale utile. Je dis bien escale utile parce que ceux qui sont passés à Lomé, le 7 dernier, était conscient que c'est grâce à Lomé qu'ils ont recouvert leur liberté.
Tout à fait. Alors, Didier, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est plutôt une diplomatie gagnante alors du Togo, et la diplomatie a été réussie alors dans cette affaire. Et c'est vrai, quand on prend cette diplomatie, celui qui l'incarne bien, c'est le professeur Robert Dussé. Alors, finalement, pour le professeur Robert Dussé, qu'est-ce qui a mérité vraiment la faveur alors du professeur? Est-ce que c'est sa personnalité? Parce que on sait très bien que le professeur Robert Dussé et le colonel Assimi Goïta sont de bons thèmes et ont une bonne relation, même d'ailleurs avant que le coup d'état du Mali n'ait lieu. Alors finalement, est-ce que c'est cette personnalité, cette relation avec Assimi Goïta qui a plutôt milité en faveur quand même de cette diplomatie?
Bon, je ne vais pas parler des choses qui sont beaucoup plus off. Je pense que ce ne sera pas d'un avantage pour le ministre d'exposer ses relations personnelles, mais je pense fondamentalement que il y a une histoire derrière toute l'histoire. Et l'histoire, c'est que tu l'as bien souligné, que le professeur Robert Dussé est quelqu'un qui a beaucoup de relations, qui a un carnet d'adresses pas possible un peu partout dans le monde, et il a le contact facile de par ses précédentes vocations. Vous savez que
c'est
un prêtre, un séminariste, un prêtre pratiquement raté. Donc, mais il a su garder ses relations et ce qui lui a permis justement de pouvoir, dans la vie de tous les jours, il a eu cette relation-là qu'il a personnellement avec le colonel Assimi Goïta, bien avant justement le coup d'État. Et après, bon, entre amis, ça se règle. C'est pour ça que j'avais dit à l'entame de mes propos que si la Côte d'Ivoire avait su laisser la main au Togo, on aurait dû régler cette affaire-là depuis des mois. Et ce ne sera pas aujourd'hui finalement. Mais je suis content de ce que la Côte d'Ivoire a dû essayer d'autres voies de sortie de crise et que ça n'ait pas marché et qu'elle est revenue en de meilleurs sentiments en acceptant finalement que la médiation togolaise prenne le dessus et le chef de l'État togolais qui est le métronome, on va dire, de la diplomatie qu'il délègue naturellement à son ministre des Affaires étrangères qui pilote la diplomatie du Togo, a permis finalement aujourd'hui d'avoir d'avoir finalement ce dénouement, cette solution. Et il y a plein de confidences, mais je me garde de dire certaines choses. Oui, justement, je me garde de dire certaines choses, mais le scénario qui avait été prévu, qui avait été imaginé et qui avait été voulu par le Mali a été le scénario qui a été exécuté à la fin. La Côte d'Ivoire a tout fait, ça n'a pas marché, et c'est ce que le Mali a voulu. Je veux dire, ce que le colonel Assimi Goïta a voulu, qu'on a vu finalement à la fin se réaliser, c'est de voir ces militaires-là être libérés uniquement à l'issue de la médiation togolaise, être remis à la Côte d'Ivoire par Lomé, et donc c'est ce qui s'est passé, et je crois naturellement que c'est le chef de l'État qui a mené la diplomatie, il reçoit tous les honneurs, mais on sait que derrière, il y a des gens qui travaillent pour l'honneur du chef, et c'est le ministre des Affaires étrangères, et ces éléments également, qui ont travaillé pour que le Togo ait ce succès-là. Et donc, je pense que, comme Tchagnon l'a dit, c'est un succès global, c'est un succès de tout le Togo. C'est vrai qu'il y a le chef de l'État qui a travaillé, et son ministre des Affaires étrangères qui ont travaillé, mais aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup plus du nom du Togo à l'international, comme ayant réussi cette médiation-là, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, le chef de l'État mène la diplomatie de consort avec son ministre, ils ont aujourd'hui le résultat, bien que le ministre ait pu jouer derrière le rideau beaucoup de rôles. C'est le chef qui reçoit tous les honneurs naturellement. Et donc aujourd'hui, c'est la leçon que moi je veux qu'on retienne, c'est que nous pouvons trouver des solutions à l'africaine si seulement, si nous faisons confiance et que nous acceptons les uns les autres. J'ai dit au départ que je ne savais pas que les autorités ivoiriennes avaient quelque chose contre le Togo au départ, mais elles ont compris que sans le Togo, il n'y aurait pas de libération, du moins à présent, parce que même l'ultimatum de la CDAO n'a rien fait au Mali, et donc elles ont compris finalement que cette médiation-là était la meilleure et était la seule voie possible pour la libération. Et c'est finalement ce qu'on a eu. Et donc, félicitations au chef de l'État, félicitations au professeur Robert Doutré, félicitations à ces services du ministère des Affaires étrangères qui ont travaillé pour que finalement le Togo ait cet honneur aujourd'hui.
Arimiaou, c'est vrai, Didier le disait tout à l'heure, que l'ultimatum que la CDAO avait donné, même d'ailleurs pour ce qui concerne le premier, la libération même d'ailleurs de ces soldats ou militaires, déjà le premier, si le 1er janvier bien évidemment, s'ils n'étaient pas libérés, il y a la CDAO qui rentrerait en jeu, mais finalement c'est comme si la CDAO est sortie affaiblie, peut-être, ou affaiblie alors de cette histoire, puisque déjà le 1er janvier est passé, on n'a retrouvé absolument rien, et que plutôt la médiation de Fonia Singbe a plutôt, on a demandé que cette médiation évolue.
Non, je crois qu'il faut aller un peu en arrière pour voir comment a évolué la crise malienne lorsque Goïta avait opéré son coup et qu'il avait pris la reine du pouvoir, et la CDAO avait aussitôt commencé par sanctionner.
Tout à fait.
Souvenez-vous que la CDAO avait même d'ailleurs coupé tout au Mali. Et c'est en cela que je reviens pour dire que c'est vrai que les gens d'aucun dit que le professeur Robert Dussé avait des amitiés avec Goïta avant qu'il revienne aux affaires. Mais Fornia Singbe également s'était démarqué. Ça, il faut pas que les gens l'oublient. Au moment où la CDAO avait coupé tout au peuple malien, Fornia Singbe était le seul à dire que non, au fait, le mal que vous êtes en train de faire, croyant que c'est aux autorités maliennes que vous infligez ce mal, c'est plutôt au peuple malien. Je crois que cet aspect est très sensible pour les Maliens, et c'est sur cela que les Maliens ont cherché, en disant, voilà un des chefs d'État de la CDAO qui est juste. Voilà un président qui ne veut pas opprimer le peuple malien au détriment de quoi que ce soit. Et c'est cet amour que les Maliens portent plutôt sur la personne de Faure Gnassingbé. Et c'est pour cela que quand Faure parle, les Maliens savent que lui, il est en train de nous comprendre. Quand Faure Gnassingbé parle, les Maliens savent que c'est quelqu'un qui veut leur bonheur, leur bien-être. C'est pourquoi les Maliens ont privilégié la piste togolaise au détriment de tout ce que la Côte d'Ivoire a pu explorer comme voie. Ce n'est pas forcément une amitié, d'abord même. Il faut dire que quand on est ami à quelqu'un et qu'on t'envoie pour négocier ou pour jouer une diplomatie, il faut savoir avoir les mots-clés. Et Faure Gnassingbé, je crois qu'il a ces mots. Et c'est pour cela que nous avons gagné. Ce n'est pas une amitié, forcément. Je peux être ami à quelqu'un. On peut envoyer l'autre pour négocier. Il ne va pas accepter si je n'ai pas les mots-clés. Et donc, l'évidence, c'est que très tôt le matin, Faure Gnassingbé s'était démarqué. Et qu'il a rassuré les Maliens d'un amour qu'il porte aux populations. Et qu'il a d'ailleurs dit que quand on met de telles sanctions contre un peuple ou contre un pays, c'est plutôt les populations qui en pâtissent, non les dirigeants. Et donc, ça a joué beaucoup. Et c'est le fruit de cela que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Maintenant, qu'on dise qu'il y a ici ou ça, c'est les à côté des commentaires que tout le monde peut faire. Mais je crois qu'il faut que les Togolais salue et continue de saluer ce que Faure Gnassingbé a fait. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toutes les familles de ces prisonniers qui ont été libérés seraient en train de faire de bonnes prières à l'endroit du Togo.
Et voilà ma question concernant surtout la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO n'est pas sortie affaiblie de cette affaire?
Mais ce n'est pas une fois, ça c'est plusieurs fois. Il y a eu d'autres questions, pas forcément maliennes, où la CEDEAO a pris des positions que les gens n'ont pas respectées. Il y a eu coup d'État en Guinée, il y a eu coup d'État au Mali, il y en a eu au Burkina. La CEDEAO a tracé son chemin. Les gens n'ont pas respecté. Et quand je disais que la CEDEAO avait bloqué tout au Mali, est-ce que les Maliens ont tempéré? Mais ça n'a pas empêché au Mali de continuer par vivre sa vie. Ça veut dire que c'est un camouflet sanglant qu'on a donné au Mali, à la CEDEAO. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est également la même chose. Mais elle continue. Et l'idéal, c'est que les gens travaillent à faire en sorte qu'il y ait cette entente, cette cohésion, cette intention première que la CEDEAO a, et de faire à ce que les peuples qui sont issus de la sous-région s'entendent. On ne va pas aller forcément dire que non, la CEDEAO a échoué, parce que sur certaines questions, elle a réussi. Et dans la vie, on ne peut pas réussir tout ce qu'on s'engage à faire. Il y a des échecs et il y a des succès partout. Donc la CEDEAO, sur certains plans, a réussi, et sur certains plans également, a échoué. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais ici, je ne vais pas me prêter à dire que la CEDEAO s'est affaiblie. Parce qu'il y aura d'autres chemins, d'autres terrains sur lesquels la CEDEAO va percer et je vais venir me contredire. Donc, pour le moment, c'est un cas positif que nous avons. Nous avons eu une réussite. Et cette réussite, ce n'est pas le Togo seul qui doit jubiler de ça. C'est toute la CEDEAO. Parce que si ça ne va pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Togo, qui est un peu à distance, croit être à l'abri. Le Nigeria, qui est un peu éloigné, croit être à l'abri. Mais je crois que c'est toute une histoire qui engage tous ces pays-là. Donc, vivement, que chacun interprète la chose positivement et dire que ce qui a été fait la dernière fois est une réussite de cette même CEDEAO.
Merci beaucoup, Tanyao. Et Didier, finalement, qu'est-ce que le Togo gagne dans cette médiation réussie?
Le Togo gagne beaucoup de choses. Le Togo gagne beaucoup de choses parce qu'il ne sert à rien que le Togo ne se mêle pas, ne te mêle pas du processus de pacification entre deux pays de frères de la CEDEAO qui étaient en conflit. Alors, vous voyez le positionnement de la Côte d'Ivoire, vous voyez l'opposition du Mali. Ces deux pays-là, c'est le prolongement de l'un de l'autre et c'est pratiquement le même peuple. Vous voyez les noms de familles ivoiriens, vous voyez les noms de familles maliens, vous vous confondez. Vous prenez Konaté, vous imaginez que c'est Mali, mais ça peut être en même temps Côte d'Ivoire.
Justement.
Donc c'est pratiquement le même peuple, à mon avis. Et donc ça ne sert à rien que ces deux peuples-là entrent en guerre et se rentrent dedans et se s'entretuent. Et donc, naturellement, quand ces deux peuples commencent pas à se faire la guerre, notamment sur le numérique, sur le plan diplomatique et tout, il est de bon ton que un pays comme le Togo, ou ça pourrait être un autre pays, justement, travaille à ce que les deux pays frères s'entendent pour que les populations qui sont les mêmes populations qui se sont mariées entre eux, qui vivent entre eux, qui font les funérailles d'un ou de l'autre côté de la frontière ensemble, puissent continuer à vivre dans une harmonie sans forcément avoir en tête que tel est malien, tel est ivoirien, et naturellement. Et deux, nous sommes dans un pays aujourd'hui, nous sommes dans une sous-région aujourd'hui secouée par le flot du terrorisme et de l'extrémisme violent. Des terroristes et des extrémistes auraient pu se saisir de cette crise-là pour continuer à mener des attentats un peu partout et pour mettre la paix et la sécurité de la sous-région en péril. Et le Togo ne pourra pas s'en sortir également. Et si le terrorisme sévit un peu partout, on a vu, c'était très 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 loin de nous. Mais aujourd'hui, ça nous concerne à plus d'un titre parce que nous avons été frappés à plusieurs reprises et pratiquement tous les jours ou chaque semaine, pratiquement, il y a des mouvements à la frontière entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Et donc, il faut que au moins on puisse minimiser un certain nombre de crises pour maximiser la pacification et la paix entre les peuples. Et le Togo ne pouvait pas rester en marge de cette histoire. Et donc, je pense que ce que le Togo gagne, c'est beaucoup plus la paix, la tranquillité, la sécurité et la collaboration et la cohésion dans la sous-région. Et parce que, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même peuple. Et en une journée, on pourra également avoir le même peuple chez nous ici, parce que on a voulu la libre circulation des personnes et des biens, même si c'est top. Mais ça reste quand même une réalité où on peut avoir un Ivoirien qui arrive au Togo aujourd'hui, un Malien également qui arrive, avec grâce au port de Lomé, on voit la sous-région, on voit également comment le Togo sert le Mali, comment les autres pays servent le Mali. Donc naturellement, le Togo avait tout à y gagner à s'impliquer dans la résolution de cette crise, parce que ça apporte du bien aujourd'hui. Puisque la crise a été résolue, vous voyez aujourd'hui, tout le monde parle du travail que le Togo a fait, du travail que les autorités togolaises ont fait. Oui, j'ai mon aîné ici, tu as lu le travail du chef de l'État, mais je dis également que c'est pour tous les Togolais, parce qu'ils ont travaillé au nom du Togo, et j'ai dit aujourd'hui qu'il faut que tous les Togolais jubilent de ce fait, parce que nous avons aujourd'hui contribué à apporter quelque chose de bien dans la sous-région, et qui est togolais aujourd'hui sur Abidjan aura du respect, parce que les autorités togolaises ont œuvré pour que cette libération, là, tant entendue à Abidjan, soit une réalité aujourd'hui. Donc voilà.
Ali Mirou, le Togo se positionne aujourd'hui comme un pays de paix, déjà dans la sous-région et même d'ailleurs sur le continent.
Non, mais je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier l'histoire récente. Le Togo était et continue, à mon avis, d'être appelé la Suisse d'Afrique. Les gens vont me dire, qu'est-ce que me fait dire ça? Nous avons connu un Togo qui a été toujours stable jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il y a des choses qui nous perturbent aujourd'hui, mais je dis que nous avons cette chance d'avoir un pays où la quiétude et la stabilité règnent, quelles que soient les insuffisances que nous pouvons reprocher à ceux qui nous dirigent, quelles que soient les attentes vaines que nous avons. Je crois que nous avons la paix, la stabilité qui permettent à chaque instant d'opérer où, quand et comme nous voulons. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on est dans ce studio. S'il n'y avait pas la paix, s'il n'y avait pas la stabilité, tu ne seras pas là, je ne serai pas là, Togbi ne sera pas ici. Donc pour dire que la question par rapport à qu'est-ce que le Togo gagne, oui, je voudrais te retourner la question en te demandant, si tu trouves quelqu'un qui se noie, que tu ne connais pas et que tu sauves, tu as quoi à gagner? De la même façon, si dans la maison de ton voisin, le voisin et sa femme se bagarrent, tu arrives à les réconcilier, tu as quoi gagner? Mais ça, tu sais ce que tu gagnes. Moi, je crois que le Togo ne va pas se réjouir à dire que, bon, voilà, c'est entre Maliens et Ivoiriens, donc bien, laissons-les aller. Quand les Ukrainiens et les Russes se battent, vous avez vu combien de gens sont en train de jouer à ramener la paix?
Tout à fait.
Et donc, ça veut dire que le monde est tel et que chacun veut avoir l'autre dans la paix. Je ne crois pas qu'en dehors des petits gens qui restent dans l'obscurité, qui souhaitent voir les autres malheureux, il y a des grands hommes qui veulent voir la situation comme ça. Je crois que les grands hommes veulent toujours la stabilité, ils veulent toujours que le bien qu'ils vivent, que le voisin d'à côté le vive. Et je crois que le Togo, par rapport à tout ce que j'ai dit, gagne. Et l'Afrique, elle gagne. Et la CEDEAO, elle gagne. La preuve, ceux qui sont arrêtés au niveau du Mali, ils sont venus dire merci. Même les Maliens, Assimi Goïta et son gouvernement, a salué la diplomatie togolaise, a remercié le chef d'État togolais et par ricochet tous les Togolais. Les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien, même le président ivoirien a salué, remercié et le Togo et le chef d'État. Donc, nous avons gagné et nous sommes en train plutôt, au lieu de dire que le Togo est devenu, le Togo est en train de s'affirmer davantage. Parce que le Togo a toujours été ce pays de paix qu'on lui a toujours connu jusqu'à ce jour.
Merci beaucoup. Le Togo a été toujours ce pays de paix et de stabilité. Ce sont des valeurs que nous partageons bien évidemment au Togo. Et je vous l'annonciez, ou je l'annonçais même d'ailleurs pour cette émission. Il s'agit de Togbi Dagbin à Yvon 4, chef. Togbi, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, j'espère.
Très bien.
Dieu merci. Très bien. Alors, nous parlions alors des valeurs tout à l'heure de paix et de stabilité. Et nous savons également que ce qui vous est cher, c'est surtout alors les valeurs ancestrales. Mais on a fait un constat, c'est que ces valeurs aujourd'hui sont en voie de perdition. Mais vous tenez toujours à ces valeurs et vous aimeriez même d'ailleurs, vous faites toujours la promotion alors de ces valeurs. Tommy, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces valeurs sont en voie de perdition?
Bon, je crois que vous les avez perdues vous aussi. Parce que on vous a entretenu dans un schéma, tout comme moi, et duquel vous n'arrivez pas à sortir pour avoir une vue critique de ce qui vous caractérise. La différence, c'est que moi, à un moment donné, il y a eu la chérie qui m'a rattrapé, et je me suis plongé, et tant bien que mal, dans ses valeurs, et ça m'a permis de jauger tout ce que je vivais jusqu'à ces instants-là. Puis après, j'ai eu au moins la possibilité d'apprécier les limites du schéma d'importation dans lequel on nous a moulé, l'éducation occidentale, bien sûr, et j'ai connu leurs limites, mais j'ai également apprécié les limites de nos valeurs ancestrales pour en faire même les distinguos. Et c'est ça qui me repositionne sur la réalité des choses. Il y a beaucoup de valeurs qu'on nous a inculquées qui sont tronquées, qui sont fausses. Il y a des milliers d'exemples que je peux donner.
Et justement, on donne un exemple.
D'un, sur le plan sanitaire, on nous a dit un certain nombre de maladies ne sont pas curables. C'est de la fausseté. Et la drépanocytose, on ne peut pas guérir de cette maladie. J'ai démontré à plus d'un titre que c'est guérissable.
Et donc c'est du mensonge.
C'est du mensonge. Dire, ben lorsque vous voyez le volume des études, le volume des documents sanctionnant les études pour ensuite conclure qu'on ne peut pas le faire, ben vous serez émerveillé. Il y a beaucoup d'autres vérités qui sont fausses. Il y a des vérités qui sont fausses. C'est que pour vous, c'est des vérités, mais lorsque vous l'appréciez sous un autre angle, vous trouvez que c'est des faussetés. Je ne veux pas aller encore sur le plan religieux, parce que là, c'est le comble. Je les laisse. Mais il va falloir que nous puissions et faire l'épreuve du doute. Ce qu'on nous enseigne en philosophie. Nous devons nous soumettre à l'épreuve du doute sur un certain nombre de valeurs qu'on nous inculque. Lorsqu'on vous parle des vaccins, tout n'est pas vaccin. Parfois, c'est des substances affaiblissantes. Je vous donne un exemple. Le vaccin, généralement, nous dit que c'est des microbes affaiblis ou des ADN de ces microbes qu'on vous inocule et qui et provoquent la sécrétion par l'organisme ou par le système immunitaire des anticorps conséquents. Voilà ce qu'on nous a enseigné. C'est ce qui s'enseigne jusqu'alors, à l'heure où je vous parle. Mais un bébé d'une journée, un enfant, un nouveau-né d'une journée, ne dispose pas de système immunitaire mature. C'est un système qui est inné, qui est appelé à se développer. Mais un système qui n'est pas mature ne peut pas sécréter des anticorps. Le bébé bénéficie plutôt de l'anticorps de sa maman. Pourquoi c'est à ce bébé dépourvu de système immunitaire mature, c'est à ce bébé qu'on fait un vaccin et non à sa mère? Tous ces vaccins qu'on fait alors que le bébé n'a pas de système immunitaire, moi je les assimile à des substances affaiblissantes. Et jusqu'à ce que le système s'installe entre 6 mois et 10 mois, vous faites des rappels 2 ou 3 fois. Et déjà, l'enfant commence par faire des fièvres, des infections et autres. Et puis cet enfant ne sera pas robuste. Cet enfant va c'est que c'est un truc qui fragilise les enfants. On vous dit, ne donnez pas de l'eau à boire aux enfants à bas âge. Que c'est après 6 mois. Si vous vous mettez dans cet exercice, votre enfant va grandir avec des ulcères. Parce que le lait maternel, bien sûr, a 90% d'eau. Mais recueillez un peu de lait et laissez le lait là un peu à l'air, même pas à l'air libre, quelques temps. Vous verrez que ça va devenir huileux, très collant. L'eau et les boissons que nous prenons, une boisson sucrée à 90% et de l'eau. Est-ce que l'eau, la boisson là peut remplacer l'eau? Non. Donc, il y a des choses qu'on nous a enseignées qui sont fausses et qui vous met en phase à beaucoup d'autres affections que vous ne pourrez pas peut-être contrôler plus tard. Sur le plan de nos bagages intellectuels, on vous a fait croire longtemps que les Africains n'ont aucune civilisation. Longtemps, on nous a fait croire que nous sommes des sous-produits des Blancs. On nous a fait croire que Dieu est blanc, que Jésus est blanc, Marie est blanc, que c'est tout ce qui est blanc qui est saint. Et que le noir, c'est satanique. C'est le diable. Vous y croyez encore maintenant? Avant, nous avions ce complexe. Et on nous a moulé, nous autres, dans ces affaires-là. On nous a caché un certain nombre de réalités qui puissent nous amener à nous réveiller de, de cet immobilisme et de cette ignorance. Le blanc n'est capable de rien. Le noir n'est capable de rien, dit-on. Le 25 décembre, permettez que j'y plonge un peu. Vous pensez qu'en Judée, quelqu'un peut être dehors? Ou un enfant peut-il naître dehors? Des bouviers peuvent également être dehors, en train de conduire leur bœuf, au moment où c'est le summum du froid, qu'il fait moins et quelques degrés. Et pourtant, on nous a raconté qu'il y a, s'il y a des bouviers, des pasteurs bouviers dehors avec leurs bœufs, l'enfant est né dans une mangeoire, patati patata. Dans la religion, j'ai voulu m'épargner de ces exemples, vous m'excusez que je sois retourné, mais dans la vie pratique, par exemple, on nous a sevré d'un certain nombre de valeurs, les valeurs agricoles. Nous ne produisons plus. Nous attendons tout de l'autre côté. Et nous mangeons très mal. Et cela nous met également en face à beaucoup de maladies dont nous souffrons aujourd'hui. Et pour lesquelles on dit, il n'y a pas de remède. On ne peut que vous accompagner dedans, vers la mort certaine. Et à la fin, qu'est-ce qu'on vous dit? Phase terminale. C'est qu'on ne peut plus rien faire. Après vous avoir dépouillé. Et c'est ça qui me met peut-être dans une position dans une position très critique vis-à-vis de cette médecine conventionnelle. Conventionnelle peut pas en avoir parce que nous ne sommes pas les mêmes peuples. Chaque communauté a ses totems. Cela voudrait dire que ce qui réussit à l'autre peut ne pas vous réussir. Donc, si on dit conventionnel, c'est qu'on nous l'a imposé. Oui, mais avec toutes les conséquences.
Oui, mais la tomie, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des ce qui ont été faits et finalement, tout le monde se met d'accord que, mais oui, c'est ce qu'on peut adopter.
Non, on nous l'a imposé, puisque entre-temps, sous la l'exercice de la pharmacopée a été supprimé. Il y a eu des décrets qui ont supprimé cet exercice et on nous a imposé la médecine du blanc. Et c'est les braves qui ont pu conserver ces valeurs de pharmacopée jusqu'à nos jours. Et qui nous les lègue aujourd'hui. Sinon, la production, on nous a, petit à petit, on nous a écarté de l'autoproduction. Petit à petit, on nous a sevré des recherches. que les Togolais font des recherches, sinon que de petits projets, de petits sujets de recherche, mais des grands sujets pour révolutionner le quotidien du Togolais. Vous ne trouvez aucun financement là-dessus. C'est comme ça. Nous n'avons pas de recherche, on ne peut pas se développer. Aujourd'hui, des grands, les Chinois étaient également même plus pauvres que nous dans le temps. Mais aujourd'hui, ils ont franchi quand même et un seuil et on les respecte. Les Togolais, on nous applaudit pour nos médiations. C'est bon. Mais après, nous avons beaucoup d'universitaires qui sont là en train de trimer, faute de moyens. Mais s'il y a des moyens pour financer les recherches, je crois que beaucoup vont s'y investir. Moi-même, là où je suis là, j'ai besoin de gros moyens pour transformer les quelques remèdes que j'ai, pour les améliorer et pour rendre beaucoup plus connus. Mais vous ne trouverez rien. S'il y a des loisirs, s'il y a Miss Togo, s'il faut aller regarder les fesses, on y met les moyens. Beaucoup de moyens, parce que c'est à ça que les impérialistes nous envoient. On vous dit, comme jubiler, applaudissez, chanter, voilà, Dieu est là pour vous faire. Donc c'est le gospel, on y met beaucoup de moyens. Si vous pensez à combien nous dépensons chaque semaine dans le courant de la religion, dans nos églises, mais vous serez, vous serez abattu. Mais c'est à ça qu'on envoie. Mais si tu veux parler de recherche, de notre bien-être, de notre devenir, vous ne trouverez aucune société qui puisse vous soutenir.
Oui, Toby, maintenant, on prend ce système-là. Déjà, on comprend tout simplement que c'est la mondialisation qui nous impose une certaine.
En fait, ce n'est pas la mondialisation.
Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, quoi faire?
Moi, on nous a couvés dans ce schéma. Depuis l'enfance, on nous répète les choses. Quoi faire? Nous devons réagir contre ces faussetés-là. Nous devons, j'ai dit, exercer l'épreuve du doute. Lorsque tu expérimentes quelque chose qui ne donne pas de résultat, c'est que c'est un truc stérile. Quand bien même des gens viendront vous dire, non, continue. Et puis on vous met dans une espérance sans lendemain. Parce qu'on dit, il faut avoir la foi. La foi existe-t-elle vraiment? Non. Parce que si tu ne peux pas avoir une foi aussi grande, que aussi petite que le grain de sénévé, on peut comparer le grain de sénévé à un grain de farine, aussi petite, minuscule. Si tu ne peux pas avoir une foi comme ça, tu ne peux pas agir. C'est lorsque tu peux l'avoir comme ça que tu peux faire même bouger une grande montagne. Et personne n'a jamais bougé une montagne. Cela voudrait dire que personne n'a aussi une minuscule foi, aussi grande, aussi minuscule que le grain de farine. Donc la foi est négligeable, donc inexistante. Je voudrais quelqu'un pour me mettre en dérision en me prouvant le contraire. Mais lorsque tu connais, en lieu plein de la foi, mettez la connaissance. Lorsque tu as connaissance du code karmique de cette montagne, tu peux la faire bouger. Ceci dit, je rejoins Ecclésiaste qui dit, ayez la connaissance. Recherchons plutôt la connaissance, une connaissance agissante, plutôt qu'une foi stérile qui ne nous amène à rien, mais qui nous plonge dans une espérance, dans un immobilisme, dans du statique. Et nous attendons, s'il y a une providence et que tu t'en sors, tu vas acclamer, tu dis, ah, il y a ci et à ça. Dieu n'est pas un homme. J'ai voulu contourner la religion, mais tu m'y pousses toujours. Le modèle, c'est que nous devons réagir contre même l'éducation que nous avons. Avoir un regard critique par rapport à ça. On m'a enseigné tel et tel. À quoi ça me sert aujourd'hui? Nous avons fait des matrices en mathématiques et autres. Mais moi, je ne vois ces matrices en rien. On nous bourre le crâne sans jamais nous diriger vers un truc fonctionnel. Tu as beau avoir le bac te sert à faire quoi? À conduire les émissions. Tu as la licence. Si ta licence n'est pas pratique, tu vas faire et j'ai l'honneur auprès de beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que cela te donne? Ça te donne un orgueil fin. Tu crois que tu es connaisseur et à la base devant tes parents et autres, tu fais le connaisseur alors que tu n'es rien. Dans les hôpitaux, les grands médecins ont une façon ont une démarche donnée, caractéristique, poitrine haute et les bras branlants. Et leur démarche est caractéristique parce que c'est des connaisseurs.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que
je propose un autre modèle d'éducation qui puisse nous enseigner du vrai et qui puisse nous tourner vers du fonctionnel, du concret. Lorsque par exemple vous voulez faire de la mathématique, que de cette mathématique vous puissiez déboucher une fonction donnée. Faut pas que votre bagage vous amène seulement à entretenir encore d'autres dans les écoles. C'est qu'il ne faut pas que vous ayez toujours des enseignants. Lorsque vous voulez être un ingénieur dans un domaine donné, que vous puissiez vous exercer, être valable, mais qu'on ne nous coupe pas de notre base familiale. On nous a totalement coupé de nos valeurs familiales. Ça fait que parfois nous sommes étrangers dans nos propres familles. Parfois certains sachent, tu as peur, te tue. Ce n'est que de la peur. Tu es fragile. Pourquoi? Parce que tu n'as pas endossé ces valeurs-là qui doivent te protéger. Ce sont les mêmes valeurs qui te protègent, mais qui peuvent aussi t'agresser. Lorsque tu ne respectes pas les totems de ta localité. J'ai dit, les communautés se diffèrent les unes des autres par rapport au totem. Ce que vous mangez dans votre communauté peut ne pas être comestible chez moi.
Tout à fait.
Et ainsi de suite. Mais comment on peut me dire que quelque chose qu'on prépare à base de mon totem puisse me guérir de quelque chose? Ça peut guérir les communautés qui en consomment, mais nous, ça va nous agresser forcément. C'est là où je parle de la non-conventionnalité des exercices sanitaires. Donc, nous devons réagir. Il faut que les pouvoirs publics aussi aident à ce que nous puissions quand même changer le devenir de la jeunesse. Nous, nous sommes déjà moulés. On s'efforce pour se maintenir. Mais les autres qui viennent là, il va falloir faire autant que faire se peut pour qu'ils soient productifs. Imagine que si tu as le bac, tu as la licence, tu as le doctorat, tu ne retournes plus jamais dans la maison de ton père. Hein, c'est difficile. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à te fonder à toi-même, ton petit foyer, et tu commences par t'imposer comme tel. Tes parents vont te louer parce que c'est comme si tu es plus intelligent, tu es, et autres. Et puis tu vas courir après ta petite formule et fortune. Et c'est ça qui rend les intellectuels hautement cupides. Et lorsque vous parlez de corruption, qui font les corruptions? C'est les intellectuels. Nous avons souhaité des chefs d'État très instruits. Avant, on se moquait de ceux qui n'ont pas été loin dans les écoles, mais eux, ils étaient plus réalistes, plus matures. Mais les autres, qu'on appelle des professeurs tant et autres parmi les chefs d'État, nous avons vu leur cursus. Ils ont été pires, beaucoup plus soumis que, disons, aux colonisateurs que les autres.
Rignaoua, une question pour vous.
Non, bon, moi, je ne voudrais pas poser une question, mais je voudrais dire que tout ce que Togbé est en train de développer au Togo, c'est d'actualité. Vous savez, quand nous on était à l'école primaire, on nous a toujours ramené à la tradition à travers ce qu'on appelait semaine culturelle.
Tout à fait.
Je crois que c'était l'occasion pour les dirigeants d'amener les petits, les enfants, à pratiquer ou à faire valoir tout ce qu'ils ont comme tradition. Ça se fait, ça continue par se faire aujourd'hui. Et au-delà, il y a d'ailleurs même des fêtes traditionnelles de toutes les communautés, où les gens se retrouvent pour communier avec les ancêtres, pour revoir ce qui est la tradition de chez soi. Et donc, quelque part, tout ce que Togbé est en train de dire est connu des autorités de ce pays, et ils ont marqué cette volonté, quitte à chacun de savoir juguler tout ce qu'il sait faire pour accompagner. C'est vrai, les religions sont venues, et l'enseignement que les religions, l'islam, le bouddhisme, le catholicisme, le christianisme dans son ensemble, ce qu'ils enseignent, c'est toujours, malheureusement, que Togbé a dit qu'il n'y a pas la foi. Je ne peux plus dire, mais c'est les bonnes mœurs. que les religions nous enseignent davantage. Et c'est les bonnes mœurs également que dans nos traditions ancestrales, on enseigne. Mais malheureusement également, il y en a les mauvaises. Et je ne peux pas rentrer dans le fond pour dire qu'il y a telle mauvaise pratique dans la tradition, mais il y a des bonnes et des mauvaises. Mais l'ensemble des religions qui nous viennent aujourd'hui, la plupart enseignent les bonnes mœurs
l'éthique.
Et c'est ça qu'il ne faut pas aussi détruire.
Non, justement, je ne condamne pas cette vision affichée. Mais vous pensez que dans nos milieux, il y a les bonnes mœurs? Vous pensez que dans ces églises, il y a les bonnes mœurs? C'est la course à l'enrichissement. C'est la course derrière maman. Et si tu rentres dans une formation religieuse aujourd'hui, que tu es bien nanti, mine de rien, en moins de 3 mois, tu seras le père de cette église parce que tu donnes. Regardez un peu partout. Est-ce que cela aide? Moi, j'ai toujours regardé et devant certaines églises, c'est les mêmes motos, les mêmes vélos qui sont gardés il y a plusieurs années qui sont là. C'est-à-dire que les fidèles sont paupérisés, sont maintenus comme tels. Parce que s'ils s'enrichissent, ils ne viendraient plus. Alors que c'est les pasteurs, eux, qui prennent de la hauteur. On a vu le début de beaucoup de pasteurs, hein, je ne vais pas les énumérer, mais qui aujourd'hui sont bien assis. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et nous n'avons pas ce goût de lecture. Sinon, chacun devait aller lire la Bible et non attendre que le pasteur cherche des passages qui vont vous émerveiller pour venir vous faire applaudir et vous dire amen pour ensuite que vous ayez la main légère et donner. L'éthique, je ne condamne pas. La morale, je ne condamne pas. Mais la morale est relative. La morale, à l'autre côté, n'est pas notre morale. Ça également, il faut pouvoir faire le distinguo pour qu'on ne soit pas toujours dans l'amalgame. Là-bas, c'est le capitalisme, c'est l'argent qui est au centre. Et c'est ça qui est au centre dans toutes ces formations-là. N'oubliez pas qu'on est des capitalistes et c'est difficilement collable à nos mœurs d'ici.
Tommy Didier, une question pour vous?
Non, pas une question. J'ai une ou deux commentaires à faire sur tout ce que Togbé a dit. Mais j'ai l'impression que nous sommes dans de l'abstrait. C'est tout ce que Togbé dit, tout le procès qu'il fait au système actuel, aux religions et tout ça, c'est un bon procès. Mais après ce procès, qu'est-ce qu'il y aura dans la réalité? Je crois qu'il n'y aura rien, parce que ce discours, on l'entend depuis des mois, depuis des années, et dans la réalité, pratiquement rien n'est proposé de concret pour remplacer ce qui existe actuellement. Donc, ce discours-là, on l'a tellement entendu, et moi, j'aurais dû entendre que Togbé nous sorte un livre avec des choses pratiques qu'on aurait pu mettre en application pour changer naturellement ce qu'il y a. Il fait le procès des églises. Moi, je suis chrétien, je suis pasteur.
Pasteur, oui.
Oui, je ne le cache pas. Mais je ne sais pas de combien d'églises Togbé parle. Moi, puisque ce qu'il dit pour les églises est également valable pour les couvents, pour les Togbé, j'en connais plein, qui également paupérisent leurs adeptes. Et donc, tout ça, c'est dans la pratique, dans la norme et dans la morale de chacun. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on voit les pasteurs qui avancent et que les autres, là, on voit également dans les couvents, les noms qui avancent et que les autres sont paupérisés. Donc, ce procès, on ne peut pas le faire. Ce débat, je ne crois pas que c'est le moment où c'est l'endroit indiqué pour faire ce débat de procès des religions et tout. Si Togbé a des choses pratique à proposer pour qu'on change, parce que moi aussi ici tout ce qu'il dit pour le blanc qui nous impose des choses, je suis d'accord qu'on change un certain nombre de paradigmes dans la conduite, dans la gestion de nos pays, pour qu'on ne dépende pas uniquement du blanc, ou qu'on ne nous applique pas seulement ce que le blanc nous a enseigné. Qu'est-ce que ça nous apporte d'aller étudier à l'école la Première Guerre mondiale? Ça ne nous apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que ça nous apporte d'aller étudier les États-Unis en géographie à l'école? Beaucoup de choses, rien. Il y a plein de choses chez nous ici que nous pouvons puiser chez nous ici. Togbé étant chef d'une grande localité et ayant beaucoup de connaissances, il a dit quelque chose pour lequel moi je le félicite sur le plateau ici. On nous a tous dit un temps que la ville de Lomé a été fondée par Ditri. Je pense que c'est Togbi qui nous a expliqué en fait la source de cette appellation. Je pense que c'est des choses comme ça qui nous permettent d'améliorer nos systèmes. Mais le procès des choses enfin, sur lesquelles les gens vont se diviser, il a dit que la foi n'existe pas. Vous avez vu, Tchanyaou était déboussolé. Donc, en fait, des choses qui vont beaucoup plus nous diviser, sur lesquelles on ne va pas s'entendre, moi, je pense que vaut mieux ne pas aller sur ces terrains. Mais les choses qu'on peut apporter du concret, les propositions, par exemple, à cette histoire-là de la ville de Lomé, je pense que beaucoup, ça a édifié beaucoup de personnes aujourd'hui.
Tout à fait, parce que nous l'avons appris depuis nos bas âges.
Voilà, ça a commencé par changer beaucoup de choses dans les mentalités. Togbi pourrait apporter beaucoup de choses. Je crois qu'il a organisé quelque chose dernièrement pour le diabète ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont des choses louables et pour lesquelles nous félicitons Togbi. Mais Togbi a ses croyances, les autres ont leurs croyances. Et je pense que vaut mieux ne pas aller dans ces domaines parce que quand le discours sera mélangé, Togbi, je crois que des gens ne vont pas vous écouter et ça ne vous sera d'aucun intérêt.
Moi, je crois que c'est du procès que viendra la lumière qui gagnera les autres. C'est du choc des idées que vous allez vous retrouver, que vont se retrouver les gens. Sinon, si on s'amendoue en disant je ne vais pas écorcher, je savais que vous étiez pasteur, c'est pourquoi j'ai voulu m'écarter.
Moi, je suis à l'aise.
Oui, moi, je suis à l'aise ici. Moi, je ne parle pas. Je parle de toutes les formations d'importation et les religions d'importation. Ces religions nous enseigneraient le chemin du ciel que. Ce ne sera pas à nous, ce sera aux blancs eux-mêmes. Si les religions l'amènent au ciel, vous pensez qu'ils vont venir nous les livrer et eux-mêmes vont rester sur terre? Dans tous les cas, j'ai fait des propositions concrètes. Par exemple, sur toutes les maladies que je critique comme étant curables, je fais des propositions de remèdes. C'est vrai que il y a des limites parce que les gens ne réagissent pas de la même façon. Maintenant, j'ai commencé par aller dans certaines contrées pour faire des échanges de connaissances. À chaque invitation, j'y vais sur nos valeurs ancestrales. Mais pour que le déclic vienne, il faut que ce soit des occasions de comparaison. Vous devez comparer l'existence, ce que vous apportez de nouveau, pour que la personne puisse trouver la différence. Lorsque je parle de foi, tu peux exercer ta foi et voir si elle est agissante. Si elle n'est pas agissante, moi, ma connaissance, je l'exerce et tu vois le résultat. Tu ne peux que t'aligner sur moi. Mais lorsque je parle dans le vide et que je ne fais pas l'effort d'amener les gens à ça, c'est là où c'est stérile. Lorsqu'on transforme le vin, l'eau en vin, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de connaissance. Lorsque tu prends une feuille d'arbre, tu mets au sol et tu fais bouillir de l'eau avec, tu mets une bassine sur cette feuille, ça commence pas à bouillir, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de connaissance. Lorsque tu prends telle herbe, tel autre, je te dis, si tu les appliques, le tonnerre va gronder. Ce n'est pas une question de foi. Tu le fais, ça gronde. Donc, il y a des connaissances qu'on a transformées en foi, alors que ce n'était pas de la foi. C'est des connaissances. Lorsque tu prends le phare aujourd'hui, tu voudrais consulter, ce n'est pas une question de foi, c'est toute une école derrière. Donc, ne mélangeons pas les choses. On a pris la foi pour l'appliquer en lieu plat de la connaissance et nous tous, nous croyons qu'en avoir cette petite foi de grain de farine, ça va être agissant et ça n'a jamais été agissant. C'est le comment on l'appelle disons, c'est la nature qui nous guide, sinon on serait déjà exterminé.
Merci beaucoup Togbi, vous restez avec nous puisque déjà à partir de midi maintenant nous allons donner l'opportunité aux auditeurs, ils auront des questions à vous poser mais bien avant d'aller à la page publicitaire bien évidemment ou pour donner la place à nos annonceurs, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu alors de ce triste anniversaire, 13 ans déjà après l'attaque de Cabinda. On se souvient, il y a la délégation alors togolaise, là nous sommes en Angola en 2010, bien évidemment, pour la CAN Angola 2010, où la délégation togolaise a été attaquée. Et là même d'ailleurs, il y a 3 Togolais qui ont perdu leur vie. Il y a Amelete Abalo et Stan Oklo, que nous connaissons très bien, et qui ont perdu leur vie dans cette attaque. Et aussi, il y a 9 blessés, 9 Togolais qui sont blessés alors dans cette attaque. Et aujourd'hui, Arignaou, justement, on sait que les familles continuent alors de pleurer leurs blessés ou leurs morts. Mais concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour que du moins ces familles soient totalement apaisées?
Non, je crois que ce ne sont pas forcément les familles qui pleurent leurs blessés, mais c'est le Togo, puisqu'ils étaient allés pour défendre les couleurs nationales.
Tout à fait.
Donc c'est nous tous qui sommes en train de pleurer, et les morts, et ceux qui, à vie, hein, vont rester handicapés. Et j'ai vu un jour, quelque part, le gardien au Bilalé.
Justement.
On a échangé un peu, il m'a dit comment il vit désormais. Je l'avais vu avec une canne. Bon, jusqu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais... Et ce sont des souvenirs vraiment amers pour le Togo et pour son football. Et franchement, j'ai entendu dire qu'il devrait avoir des dédommagements.
Tout à fait.
Ça a été fait, ça n'a pas été fait, je n'en sais pas trop. Mais je sais ce que le football, hein, comme sport roi, représente dans le monde entier. Et particulièrement au Togo, chez nous. Je sais que les dirigeants togolais doivent mettre du sien pour faire à ce que les gens rentrent dans leurs droits. Mais à vrai dire, je ne sais franchement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Si les gens étaient dédommagés, aucune idée. Si cela n'a pas été fait, ma prière, c'est que ceux qui ont en main aujourd'hui la régulation et tout ce qui concerne le football togolais, qu'ils fassent l'effort nécessaire de continuer par se battre pour que justice soit faite.
Didier ?
Oui, naturellement, je pense que 13 ans après, je pense que c'est déjà assez suffisant pour que la vérité sur ce qui s'est passé justement soit connue. Et je pense qu'il faudra qu'on travaille dans ce sens-là pour que ce qui s'est réellement passé, les tenants, les aboutissants de cette affaire, comment est-ce que le Togo s'est retrouvé à prendre la route alors que les autres nations avaient pris de l'avion pour rejoindre Cabinda. Qui a fait quoi à cette époque pour qu'on ait enregistré mort et blessé? Je pense que plus de 10 ans après ou 13 ans après, il faut que les enquêtes soient ouvertes pour qu'on connaisse la vérité au-delà du dédommagement pour les familles, pour les blessés et tout, l'accompagnement qu'on doit même apporter à ces gens-là. Il faut que la vérité également soit connue. Je pense que la vérité pourra apaiser beaucoup de cœurs et beaucoup de... Et ça permettra de situer les responsabilités. Et deux, aujourd'hui, on a des blessés à vie, comme le gardien au Bilalé notamment, et d'autres personnes également qui souffrent encore dans leur peau. Je pense que l'État doit continuer à leur apporter de l'assistance pour que ces gens-là qui étaient allés en mission pour le Togo et qui sont revenus avec des blessures dans leur chair, puissent avoir eux aussi de l'accompagnement et de réconfort. Je pense que ce sera la meilleure des choses à avoir. À l'époque, il y avait eu un peu de dédommagement pour les familles des disparus. Je ne sais pas quelle est la suite de cette affaire, mais je crois que la nation togolaise a besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Ceux qui sont impliqués dans l'affaire-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et ceux qui sont blessés à vie et ne peuvent plus continuer leurs activités ont besoin d'accompagnement et que l'État soit de leur côté aussi.
Le peuple togolais a besoin de la vérité dans cette affaire, vous l'avez dit, et pour que du moins les cœurs soient apaisés. Nous allons faire un clin d'œil alors à nos annonceurs, puisqu'il est midi passé de 5 minutes. Nous allons faire un clin d'œil alors à ces annonceurs et on revient juste après. 93.5. Retour dans cette émission Club de la presse d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes avec Rémi Aout Sanyao, Didier Assogba et Toby Dagban à Yvon 4. Aujourd'hui, nous parlons de trois sujets. Nous avons parlé alors de trois sujets. Il y a d'abord la libération des 46 militaires ivoiriens sous la médiation togolaise. Et il y a aussi les valeurs ancestrales alors en voie de perdition. Et il y a Toby Dagban à Yvon 4 qui est est venu alors nous parler de cela. Et aussi, nous avons terminé avec l'attaque de Cabinda. 13 ans, il y a de cela 13 ans. Et qu'est-ce qui est fait concrètement? Nous en avons parlé alors dans cette émission. Et maintenant, nous vous donnons la parole. Vous pouvez nous appeler sur le 22 21 3314. Allô? Le premier auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Oui. Oui, bonjour, chef.
Oui, bonjour, s'il vous plaît. À qui ai-je honneur?
C'est Sylvain.
Sylvain.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Nyekonakwe.
Nyekonakwe, Sylvain, allez-y.
Je salue Tabu Dagba.
Oui.
Effectivement, il faut avoir la tête pour le comprendre. Et la religion même, c'est un changement de mentalité du Père. Certains chrétiens aujourd'hui sont plus pires du Père. Ils peuvent marcher sur votre tête pour avancer. C'est nous les humains qui ont détourné la vraie religion à notre société, à une société familiale. C'est pourquoi ça ne répond pas aux doctrines de cette religion. Et Jésus même n'est pas né un 25. Il a parlé du froid où les bergers ne devaient pas sortir tout à l'heure. Le 25 décembre n'est pas un jour où Jésus est né. Juste une commémoration. Et pour la CEDEAO, moi je dis que la CEDEAO a échoué sur tous les plans. Seulement ça me rappelle le monsieur Yahya Jammeh qui a reconnu sa victoire et qui par son bâton magique voulait revenir au pouvoir. Et c'est là que la CEDEAO a joué un grand rôle. Le reste c'est du bito. Merci.
Merci beaucoup Sylvain. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est Armand. Bonjour le plateau.
Armand, bonjour.
Oui. Je reviens ici sur la relaxe des 46 soldats ivoiriens.
Oui.
Entre temps qui étaient à Bamako. Il faut avoir la mauvaise foi pour ne pas reconnaître la diplomatie efficace et discrète du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé. Parce que sans cette diplomatie, nous avons vu que l'affaire même traînait à cause d'une certaine stratégie de menace, de sanctions, alors qu'il fallait aller directement à la négociation, essayer de négocier, d'amener les deux parties à s'entendre sur l'essentiel pour pouvoir libérer les... Et je pense que c'est ce que le chef de l'État togolais a pu trouver par son aura et sa carrure. Il a pu chercher les voies et moyens à amener les uns et les autres à un accord. Aussi, vraiment, j'apprécie vraiment le discours de Tobi Dagi, de Tobi Dagban.
Dagban, oui.
Dagban, oui. Mm. Vraiment, quand on observe un peu notre société, il va falloir qu'on puisse avoir plusieurs de ces Tobi qui puissent avoir ce discours. Parce que vraiment, actuellement, nous avons senti que les Africains sont en train d'aller karma à la dérive. Et si nous ne prenons garde pour revenir à nos valeurs traditionnelles, ancestrales, j'ai très peur pour l'Afrique. Merci.
Merci beaucoup, Armand. 22 21 33 114 91
36
73 15. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, s'il vous plaît, c'est qui?
Oui, c'est Pelé.
Pelé, allez-y.
Je salue Tato. Pour la maison. Bon, moi, bon, je ne sais pas si le président Faure Gnassingbé passe la CDM.
Pelé, nous avons du mal à vous écouter. Oui.
Je ne sais pas si le président Faure Gnassingbé passe la CDM. Parce que le président est dans la CDM. Et que la CDM a pu négocier que le Mali l'a rejeté. Alors, au moment où la CEDEAO arrive, le Togo n'était pas dedans, on n'était pas dedans. Qu'est-ce qui est arrivé que le Togo n'est pas dedans? Voilà, là, on l'accepte. Ça, il faut chercher un peu de ça. Et une bonne chose, le peuple congolais. Mais il ne faut pas que l'on aimait à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur aujourd'hui, alors nous parlons à Carré, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau potable. Les femmes sont à 100 jours, on ne peut la pas. Alors, si c'est un déplacement-là, ça peut faire quelque chose. Tout à l'heure, vous parlez de Kabinda, Lundi, tout ça là. Elle a dit tout ça là. À l'intérieur, ça, elle a dit tout ça là. Elle a dit tout ça. Donc,
oui, Pélé, merci beaucoup. Vous avez été compris. Merci. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est qui, s'il vous plaît?
C'est Faisal qui vous appelle.
Pardon?
Faisal.
J'ai du mal à vous écouter.
J'ai dit Faisal.
Allez-y.
Oui, j'appelle de Coréva.
Oui, oui, allez-y.
Oui, c'est par rapport à... aux enseignements de Tocqueville d'abord.
Mm.
C'est des enseignements qui nous éveillent beaucoup. Toutes les fois que Tocqueville est passé sur les antennes pour faire des rappels à la communauté africaine, il nous a apporté beaucoup d'éléments d'éveil d'esprit. Parce que vous savez que ces religions importées là nous ont beaucoup berlé. Et aujourd'hui, quand on fouille avec un peu de recul, un esprit critique, on se rend compte que c'est une multitude de contradictions que ces religions nous ont apportées. Et c'est des choses qui sont foncièrement planifiées pour nous déboussoler, pour nous désorienter, nous dépouiller de nos biens, de nos atouts. Et donc les Africains doivent faire attention, revenir aux ressources. Et celui qui se veut d'être un croyant, il va penser à comment ne pas s'éloigner de son Dieu suprême fondateur. Mais à la fin, il faut faire attention à nos valeurs qui sont toujours de bonnes choses pour nos communautés, qui peuvent nous permettre de nous épanouir, de nous développer à notre manière. Parce qu'on ne va jamais calquer nos principes sur les autres pour nous développer. Ils vont toujours nous tourner en bourrique. Ensuite, le cas des militaires.
Oui.
Nous trouvons que c'est un grand coup de la part de nos autorités, notamment le président. Et en même temps, il faut profiter de l'occasion pour demander à ce qu'ils fassent des efforts pour que ceux qui sont aussi sous le coup de certaines menaces sur le plan local, sinon concernant les citoyens togolais, qui ont peut-être commis des erreurs, si nous supposons qu'ils sont déjà portés à la justice et ils ont été jugés, qu'on puisse revoir leur cas également. Qu'on n'attende pas que ce soit les autres qui les viennent aussi face à une diplomatie qui affecte notre communauté.
Merci beaucoup, 22 21 33 74. Nous attendons vos commentaires et aussi des questions. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
S'il vous plaît, c'est qui?
C'est Nyamavo.
Nyamavo, vous nous appelez de quel quartier? Oui, le plateau vous salue aussi.
Oui. Diplomatie ou pas, bon, nous tous on retient une chose. On appelle les mercenaires, ils sont jugés, condamnés, graciés par Assimi Goïta. C'est ce que nous voulons aussi dans les autres pays, juger les gens et les gracier. Et il y aura une cohésion. Vous savez, comme l'expliquait Tabi Dagban là-bas, on va même prendre certaines personnes comme des religions. Et on va se tromper de débat, hein, au lieu de mener des stratégies pour amener à bon port les choses. Qu'est-ce que coûtait à Ouattara de négocier au lieu de faire le bras de fort? Vous savez, il y avait un inspecteur fait à son âme, Asia, qui avait renvoyé certains élèves parce que ils ont des coiffures, il a commencé par avoir des appels, des gros bonnets là. Il disait que ce sont les enfants qu'il appelle enfants à parents. Donc, il donnait l'adage que l'éléphant trouve l'eau parce qu'il fait son œil dans l'eau. L'éléphant, c'est qui? C'est le grand, là. Donc, c'est lui, lièvre, en passant, qui l'a dit que calme-toi, sors de l'eau, et l'eau va se calmer et tu vas voir ton œil dans l'eau, là. C'est ce que Ouattara devait faire. Le boucan qu'ils ont fait, tout ça, là, il fallait qu'il se calme et il discute. Et Goïta, va libérer les prisonniers. Que de laisser faire des dieux sur la terre. Bon, J'admire aussi le débat de Togbé. Surtout, quelqu'un le disait, que Dieu n'existe pas. Ce sont les entités qui existent. Sinon, comment l'appelle-t-on ? Les enfants d'Abraham ne seraient pas séparés. Donc, aujourd'hui, on qualifiait l'Afrique comme polythéiste. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus polythéistes, excusez-moi. On a Dieu de telle religion, et Jésus de telle religion, Jésus de telle religion, je ne veux pas citer. Et eux-mêmes ne s'entendent pas. C'est important que d'abord tu vas parler de la foi et puis ça va les séparer. Merci.
Merci beaucoup, Nyamavo. Nous allons recevoir un dernier auditeur. Allô?
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Et comment vous allez?
Allô?
Oui, c'est qui, s'il vous plaît?
Oui, c'est Monsieur Kelly.
Monsieur Kelly, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Hébert.
Hébert, allez-y.
Oui, merci beaucoup. J'aimerais saluer la diplomatie du président togolais. Et en plus, le journaliste qui est à côté de vous, j'admire ça, comment ici.
Il y a des journalistes.
Il combat, Monsieur Tchanyao Arimi Yao. Oui, et j'aimerais saluer aussi Togbi Dagban. Allô?
Oui, je vous écoute, allez-y.
Oui, je salue Togbi Dagban pour ses développements. Parce que si on peut avoir des Togbi comme ça, 10, l'Afrique aura évolué de ses produits africains. C'est ma petite contribution que j'ai à vous ajouter.
Merci beaucoup pour votre contribution.
Togbi, c'est un enfant de ton groupe Meka. Hein.
Merci beaucoup, okay. Télé. Allez, à tout à l'heure. Oui, bonne suite. Okay. Alors, nous revenons ici sur le plateau après avoir écouté nos auditeurs. Togbi?
Oui.
Déjà, quel commentaire vous pouvez faire après avoir écouté les uns les autres?
Ce qui m'a déterminé, c'est tout le temps que nous passons à louer l'exploit du président Faure. Faure a fait un exploit parce que là où on n'attendait pas le dénouement, lui, il l'a apporté.
Tout à fait.
Et cet exploit est sociopolitique, essentiellement. Et je me dis que nous avions laissé un capital, une casserole, courant la guerre fratricide et inter-ivoirien dans le temps parce qu'on avait également. Nous y étions d'une manière ou d'une autre. Et je crois que par rapport à nos populations de la diaspora ivoirienne, il y aura une sorte de décrispation. Parce que moi, j'ai des sœurs là-bas qu'on critiquait, qu'une frange critiquait. Il y a eu une décrispation. Et je crois qu'au Mali aussi, les nôtres vont hausser la tête. Parce que c'est par nous qu'il y a eu au moins cette paix.
Tout à fait.
Et c'est en cela que je salue, moi aussi, mais nous n'allons pas rester là à saluer. Il faut que, au-delà de cet exploit, de cette réussite, que nous puissions également regarder à l'interne. Ça, c'est à l'externe. À l'interne, je parle de moi-même, je suis également emprisonné, comme ces 46 Ivoiriens. Je suis emprisonné également dans mon propre pays à travers mon dénuement. Parce que ce que je voudrais faire, je n'arrive pas faute de moyens. À travers la vie chère, à travers l'immobilisme général, politique, économique, social, qui gangrène notre vie de tous les jours. J'en appelle au président à user également de son tact, de sa compétence, pour nous délivrer, et je le remercie par avance.
Merci beaucoup, Togbi. Didier, c'est vrai que les uns et les autres ont plutôt fait des commentaires sur des sujets que nous avions débattus ici. Si vous avez un commentaire à faire rapidement.
Oui, je crois fondamentalement, comme j'ai dit à Togbi, je le dis encore aux autres,
oui.
Et on n'a pas pour le moment de modèle qui nous permette de remplacer ce que nous avons aujourd'hui. Le jour où nous aurons trouvé ce modèle-là, nous remplacerons. Et je voudrais peut-être faire cette invite-là, comme le professeur Robert Doucet l'a dit à la tribune des Nations Unies, l'Afrique est aujourd'hui africanophone. Quelque chose comme ça. Parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout ce qui nous a, tout ce dont nous avons été en contact. Donc on ne peut pas couper aujourd'hui. Si on veut revenir en Afrique aujourd'hui, les Blancs, ils ont fabriqué le micro pour nous. Nous allons laisser le micro, on n'aura pas de radio là. Donc je pense que nous devons...
Il y a d'autres micros traditionnels.
Oui, mais bon, pour le niveau de développement que les gens ont atteint aujourd'hui...
Il suffit de mettre les moyens pour qu'on développe. Et vous verrez que c'est même plus simple.
Mais je vais dire également à Togbe de lancer cette invitation à d'autres personnes qui utilisent les connaissances africaines pour nuire, pour faire du mal, de les utiliser plutôt, de chercher des moyens pour qu'on arrive au même niveau de développement que les Blancs dans nos communautés, plutôt que de nous battre autour des terrains d'héritage, de nous entretuer avec les connaissances des pouvoirs africains. Je crois que c'est des choses comme ça qui poussent les gens à aller vers les religions importées dont ils ne veulent pas. Et donc, tant que des choses comme ça vont continuer dans nos communautés, nous allons continuer à jouir dans nos églises, à prier, à prêcher, à louer Dieu. Togbe m'a invité pour mon concert, mon prochain concert gospel.
Je pense que l'invitation Togbe l'a reçue déjà directement
ce n'est pas,
dans cette
ce
émission.
Ce n'est pas au studio qu'on donne, on donne une invite à Togbe.
Tout à fait. Non,
Togbe, je viens d'une maison de chefferie traditionnelle, je sais comment faire.
Ok, nous, alors c'est important.
Et donc, arrive où?
Bon, moi je voudrais dire que aller sur les terrains de religion, ce moment est très dangereux pour chaque citoyen. Et je crois que le développement que Togbe a eu à faire ici, beaucoup ont puisé ce qu'ils peuvent.
Tout à fait.
Ces développements peut-être plairont à certains, mais peut-être ne plairont pas à d'autres. Et je voudrais dire que Didier a dit tout à l'heure que Togbe appelle les autres qui sont dans la tradition et qui utilisent leurs connaissances pour faire du mal, de revenir, et que c'est cette façon d'opérer qui fait que beaucoup vont aux nouvelles religions. Mais je voudrais dire également que le mal est partout. Il faut que tous les êtres humains prennent de la hauteur et qu'ils cultivent le bien. Aujourd'hui, un peu partout, vous interrogez tous les Togolais, chacun vous dira: je suis musulman, je suis chrétien, je suis X. Mais c'est l'ensemble, c'est au sein de cet ensemble qu'on trouve des malfaiteurs. Donc que chacun prenne la hauteur de quelle religion qu'il soit, à semer le bien. Et quand on fait du bien, on le sait. Et pour conclure, je voulais dire à tous les Togolais que 2023 commence par donner des lueurs d'espoir, et pour dire à tous les Togolais d'avoir foi qu'il y aura des réussites, des succès pour tous cette année.
Amen. Merci. Nous restons avec vous pour recevoir le carton de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de carton. On vient de commencer l'année. Je garde le carton pour de bonnes choses prochaines.
D'accord, merci Didier.
Je n'ai pas non plus de carton, je passe.
Toby?
Moi, j'ai un carton pour le chef de l'État. Vous l'oubliez? Carton vert.
On a parlé de lui, on ne donne pas de carton.
Non, c'est comme ça la règle. Tout ce dont on a parlé,
voilà,
on ne donne pas de carton.
C'est en dehors de
ce sujet. Vous semblez oublier.
Non, on a déjà tout dit.
Non, c'est le carton vers moi. Bon, mon carton est blanc parce que rien ne m'enchante. Je suis déçu même de la vie au quotidien. Et ça fait que, en regardant autour de moi la misère ambiante, et ça m'offusque. Cette année, le 12 prochain, je fête mes 60 ans. Je fête? Non. Je me rappelle. Parce que j'en ai les moyens pour pouvoir organiser une grande fête. Mais j'en rends grâce à tous ceux-là qui n'ont pas trouvé à manger aujourd'hui. Qui n'auront pas trouvé à manger demain. À tous ceux qui croupissent dans la misère et dans les geôles, puisque vous aurez pu également demander à ce qu'on délivre les gens qui sont également dans les geôles, tout comme Assimi a fait, qu'ils bénéficient d'une grande grâce. Une grande grâce qui vient du cœur, du tréfonds du chef de l'État, parce qu'il a la possibilité de gracier, il a un grand cœur. Et je sais que dans ses discours prochains, nous aurons quelque chose du genre, pour que ce qu'il a commencé avec la nouvelle année, il puisse continuer sur les jours qui suivent.
Merci beaucoup, Togui. Merci, Togui. Le message est passé. Merci beaucoup d'être passé aussi dans cette émission, Togui. Et merci, Didier, d'avoir enrichi également ce débat. Merci à Rémi Roux d'avoir enrichi aussi, lors de ces débats, de votre connaissance. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la prochaine fois. Déjà, demain, c'est mon confrère Fousséni Sayebou qui vous retrouve puisque Sass Gaou est en congé. Je vous retrouve le mercredi. Au revoir.